autre radio, autre culture, émission également diffusée sur 6e Paris Jazz. Alors aujourd'hui, nous reprenons un thème qui avait été fait il y a quelques mois. Nous avions parlé du handicap et de l'école. Et aujourd'hui, nous parlons d'une situation bien particulière puisque c'est les handicaps dans le Var. Pour ce faire, nous recevons Jean-Marc Pedrona. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour Marion.
Ça va ?
Ça va.
Ça va ?
Un peu ému, mais ça va.
Un peu ému, là. Alors, on est sous ce beau soleil, magnifique soleil toulonnais.
Et chaud de température aussi.
Et chaud de température. Et vous êtes très intéressé, vous êtes partie prenante dans le handicap. Alors, pourquoi cet intérêt ?
Tout simplement, comme beaucoup de gens, on s'intéresse à ce sujet quand on est touché. Je suis particulièrement touché parce que j'ai un fils de 9 ans qui est sur fauteuil roulant suite à l'ablation d'une tumeur médulaire, c'est-à-dire une tumeur dans la moelle épinière. Donc il a fallu l'opérer, mais depuis il est sur fauteuil roulant.
D'accord.
Je me bats pour mon fils et donc j'en profite pour faire profiter également les autres personnes handicapées de ce que je fais.
Alors justement, nous on avait fait une émission sur le handicap et l'école. Est-ce que votre fils est scolarisé ?
Oui, mon fils est scolarisé, ça se passe très bien. Ça s'est pas trop bien passé au départ, mais bon, nous avons eu quelques hauts et bas avec une directrice d'école qui, maintenant, le petit a quitté cette école et se retrouve en primaire. Ça se passe d'une façon merveilleuse avec l'équipe éducative, tant les enseignants que le personnel de l'ASEM. Tout le monde est content, il s'est bien intégré. Le directeur de l'école me disait également que ça avait profité à tous les autres élèves, puisque par là, ils voyaient ce que c'est que le handicap, puisqu'ils y sont confrontés, et ça les fait évoluer. Tout simplement. Voilà.
Ça a un apport très positif chez les autres enfants, ce genre de choses.
Surtout chez les enfants, parce que les enfants sont encore assez malléables et assez sensibles à ce genre de choses. C'est pas comme les adultes qui, des fois, sont des comportements qui sont quand même assez indignes de personnes.
Oui. Je sais que lors de notre ancienne émission, qui est toujours d'ailleurs écoutable sur Autre Radio, Autre Culture, on avait reçu un jeune qui était handicapé, mais dont le handicap ne se voyait pas, qui s'appelait Romain, et qui disait que ça a été très très dur pour lui une intégration dans un lycée professionnel, parce que les jeunes se moquaient de lui, ils ne voulaient pas lui serrer la main, le mettaient toujours en retrait, et ça a été très 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 dur pour lui.
Oui, ça m'étonne pas parce que je vois mon fils qui est sur fauteuil roulant, donc je le répète, mais était lui-même regardé comme quelqu'un de contagieux.
Oui,
on avait des parents de gosses qui prenaient les enfants par la main pour éviter le contact avec mon fils parce que il a fallu leur dire à ces gens-là, attendez, mais il est pas contagieux. Mon fils s'est rebellé à plusieurs reprises. Les gens ont compris, mais enfin, il a fallu faire de l'éducation.
C'est toujours le problème de la peur de la maladie,
la peur du handicap. La peur de ce qu'on ne connaît pas. Et là, oui. Voilà, et donc, de temps en temps, il y a quand même des réactions un peu ridicules. Heureusement que ça commence à rentrer dans les mœurs.
Ouais, mais que de travail pour en arriver là. Alors, moi, j'ai été stupéfaite quand vous m'avez donné les chiffres sur la France au niveau du handicap. Est-ce que vous pouvez me rappeler un petit peu ce qui se passe en France au niveau du handicap, que ce soit enfant ou adulte, en fait ?
Oui, que ce soit enfant ou adulte. Ben, écoutez, c'est simple, il y a à peu près 42% de la population qui est affectée d'au moins une déficience. Déficience, quelle qu'elle soit, hein, donc...
Déficience qui peut être soit par accident,
soit par maladie,
soit par vieillesse,
que ce soit bénin, etc., ou,
oui.
Bénin ou beaucoup plus grave. Hein. Il y a 9% de la population qui ont besoin de recourir à une aide humaine et il y a 4% de la population qui dépendent de l'allocation adultes handicapés, qui ont eu des allocations pour leur handicap, donc ils sont reconnus à plus de 80%. Et cette population de 4% représente 800 000 personnes. 800 000 personnes en France qui
touchent quelque chose.
Et quand je dis quelque chose, 628,10 euros par mois, c'est pour vivre.
Ouais,
c'est pour vivre, ouais. Et pour pouvoir s'acheter les prothèses, les fauteuils roulants, les cannes. C'est impossible. Quand je vois que, évidemment, il y a des fauteuils roulants qui sont remboursés par la Sécurité sociale, mais ils ne sont pas confortables. Ils sont, je ne vais pas dire inefficaces, mais ils ne sont pas adaptés. Pour mon fils, là, il a fallu que je prenne un autre fauteuil roulant qui est beaucoup plus cher. Il dépasse de plus de 1 000 euros le remboursement de la Sécurité sociale, qui est d'à peu près 600 et quelques euros, je ne me souviens plus exactement. Mais pour qu'il ait le petit, vu que c'est son moyen de locomotion, c'est qu'il est toute la journée dessus. Il faut qu'il soit à l'aise, il faut que ce fauteuil soit efficace pour qu'il puisse le manipuler. Il le manipule mieux qu'un vélo. Mais pour ça, il faut acheter, mais alors très cher.
En étant toujours dedans, ils ne peuvent pas avoir quelque chose de bas de gamme.
Voilà,
c'est impossible.
On ne peut pas mettre du bas de gamme. Sinon, bien sûr, si quelqu'un se casse une jambe, qui a besoin d'un fauteuil roulant, c'est sûr
oui,
qu'on va
suffit.
Prendre ça.
Oui.
Ça suffit. Mais là, pour quelqu'un qui est toute la journée, il faut son confort. Il faut qu'il puisse bouger d'une façon autonome avec. Voilà. Et là, c'est le cas. Et mon fils peut bouger d'une façon autonome. Pour en revenir aux chiffres, peut-être.
Oui, on en revient aux chiffres, oui.
Il y a quand même... Également, parmi les personnes handicapées, il y a 13%, enfin plus de 13% de personnes handicapées qui ont une déficience motrice. Plus de 11% qui ont une déficience sensorielle. Il y a 9,8% des Français qui ont une déficience organique, c'est-à-dire cardiovasculaire ou respiratoire. Et il y a 6,6% qui ont une déficience intellectuelle ou mentale. Ça représente donc ces 42% à peu près de la population française. Mais bon, bien sûr, ça c'est pas... Quand on dit déficience motrice, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est sur fauteuil roulant.
Tout à fait, oui. Hein,
ça peut être du plus petit handicap jusqu'au plus profond. Mm-hmm. C'est quand même assez important. Je pense que nos élus devraient en tenir beaucoup plus compte.
Pourquoi justement on n'arrive pas à ce que ça soit normal que ces gens-là puissent trouver du boulot comme les autres, puissent aller à l'école comme n'importe quel enfant?
Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quelque chose de culturel. Ça fait des années, pendant des siècles, on a caché les personnes handicapées. On les a cachées, elles étaient enfermées à la maison. Quand on regardez la Bible déjà, quand il aurait été interdit d'approcher le lieu sacré. Parce qu'ils n'étaient pas purs, ils étaient handicapés, ils n'étaient pas purs. Tout ça a fait que, culturellement, nous avons toujours rejeté le handicap. Alors, heureusement qu'il y a quand même des politiques, des gens qui ont le pouvoir, qui de temps en temps disent qu'il faut que ça s'arrête. Bon, le dernier en date, la loi de 2005, qui a fait quand même faire beaucoup de progrès.
On le voit, justement, ce progrès. On le sent maintenant.
On le sent, oui. Il y a un progrès qui est quand même assez sensible. Il y a, c'est déjà mieux adapté dans les... Un accueil qui est meilleur dans les écoles. Malgré qu'il y ait toujours des récalcitrants, hein, des instituteurs, des directeurs d'école qui sont récalcitrants. Mais bon, il y a toujours quand même un meilleur accueil. J'ai, moi, personnellement, contact avec monsieur l'inspecteur d'Académie du Var, de monsieur Muller et monsieur Dominique Quinchon, qui est l'inspecteur de l'éducation nationale en charge du handicap. On voit que ce sont des gens qui sont sensibilisés, que ce sont des gens qui veulent que les choses avancent. Et on le comprend d'ailleurs, ils sont partenaires du salon et de la cérémonie dont je vous parlerai tout à l'heure.
Alors qu'on avait reçu un proviseur de lycée qui nous disait, en fait, c'est plus facile d'intégrer des enfants ou des jeunes qui sont aveugles, non-voyants, que des malvoyants. Parce qu'il disait, ça demande, en fait, des malvoyants, il y a différents degrés de malvoyance, on n'arrive pas à se mettre à leur niveau, alors que des non-voyants, ils ne voient pas, donc on sait exactement ce qu'il faut avec eux. Et il disait, il y a des problèmes de handicap comme ça qui sont très, très difficiles à gérer.
Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, je l'ai très bien vu là depuis que je suis à la page du Var, le personnel enseignant n'est pas suffisamment formé. Ils le reconnaissent eux-mêmes, hein, donc ce n'est pas un secret, et ce n'est pas un reproche non plus, mais ils ne sont pas suffisamment formés à l'accueil des enfants handicapés. Et ça pose quand même pas mal de problèmes.
Alors moi, ce que j'ai vu également, ça c'est chez les jeunes handicapés, et ça, je l'ai vu chez 2-3 jeunes adolescents, qui avaient du mal à... Lorsqu'ils se trouvaient face à des gens non handicapés, face à des professeurs non handicapés, ils avaient du mal à comprendre pourquoi ces gens-là ne se donnaient pas pleinement à leur métier. Alors c'était assez curieux parce qu'ils disaient « Nous, on fait ce qu'on peut. On essaye de dépasser nos limites parce qu'on est handicapé et on essaye d'être comme tout le monde, de s'intégrer dans la masse. » Et ils ne comprenaient pas que ces gens-là, eh bien non, ils avaient décidé de ne pas travailler, donc ils ne travaillaient pas, ils ne préparaient pas les cours. Et on arrivait à avoir des enfants qui pouvaient devenir très violents au moment des cours, donnant leur cas de vérité au professeur.
Oui, c'est la révolte. Hein, la révolte de quelqu'un qui fait le maximum et qui est même plus que le maximum pour pouvoir se dépasser et qui ne comprend pas qu'il n'y ait pas un écho... Il y a un écho favorable derrière. Bon, c'est tout à fait compréhensible. Je crois que même c'est pour le commun des mortels, c'est comme ça aussi. Quand on essaie de faire quelque chose et qu'il y a derrière, il n'y a pas le répondant.
Il faudra que ça change tout ça. Hein.
Oui.
Alors, vous avez, au niveau du Var, il y a une association. Alors, parlez-moi de cette association qui s'appelle la page du Var, la page 83, c'est ça?
C'est ça. Alors, la page du Var, c'est, bon, donc, comme ce que veulent dire les lettres, c'est Association pour adultes et jeunes handicapés. Donc, c'est une association qui est née en 1965. Et qui a rejoint la Fédération des Apaches, donc immédiatement. La Fédération des Apaches qui est née en 1962. C'est toujours dans le contexte de l'éducation nationale, puisque en 1962, ça a été créé par un groupe d'instituteurs syndicalistes, justement, qui se sont révoltés, comme quoi, vous voyez, déjà à l'époque, en 1962, il n'y avait pas besoin d'attendre toutes ces lois, la loi de 75-2005. Se sont révoltés donc, et ont créé l'association pour adultes et jeunes handicapés. Ça a fait quand même boule de neige dans tout le territoire national, parce que bon, en 1962 déjà, l'association du Var naissait.
Est-ce que vous avez des relations avec, par exemple, le centre qui est à Hyères, ce grand centre médical avec des handicapés psychomoteurs?
Lequel? Parce qu'il y en a plusieurs. Il y a Pomponiana, il y a René Sabran, voilà. Il y a tout ça. Oui. Alors non, on n'a pas de contact direct avec, mais avec le centre médical Pierre Chevalier ailleurs, justement, qui fait partie donc des partenaires privilégiés de la page.
Alors quel est votre président? Comment s'appelle votre président?
Mon président, ben, Yvon Sabatier. Ça fait longtemps qu'il est là. Quelqu'un de très très dévoué à la cause. Il est touché lui-même par... dans la famille directement. Voilà, et puis donc il fait partie de toutes les commissions, il se bouge, et pourtant c'est quelqu'un qui commence à prendre de l'âge, mais qui est très 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 efficace.
Et vous êtes combien de membres dans cette association à peu près?
Ça, c'est une bonne question qui a le mérite d'avoir été posée. Ben, en fin de compte, je crois qu'il y a à peu près 100-150 personnes qui sont inscrites dans l'association. Mais nous nous occupons de quand même pas mal de gosses, que ce soit hier dans nos établissements, instituts médico-éducatifs, à Fréjus, au CMPP à la Seine, c'est-à-dire au centre médico-psychopédagogique de la Seine. Nous avions décidé à l'époque de ne pas demander d'adhésion aux familles des enfants dont nous occupons. Et depuis, on ne leur demande toujours pas de... Alors, si on compte ces personnes-là, on arrive quand même à bien 500 personnes.
Ah, c'est énorme. Est-ce que vous avez des handicapés qui s'inscrivent dans votre association?
Non, c'est surtout les parents.
C'est
surtout les familles, oui. C'est surtout les familles. On en a, mais bon, oui. C'est surtout les familles.
Parce qu'ils pourraient se lancer aussi dans l'association en disant...
Mais ils sont les
bienvenus. Je suis handicapé, j'ai envie de faire bouger les choses.
Ils sont les bienvenus s'ils viennent nous aider...
Parce que c'est bien de se faire aider, mais c'est bien aussi de...
C'est bien aussi de prendre le taureau par les cornes et de faire le nécessaire pour s'autodéfendre.
Et parce qu'on n'est jamais mieux servi par soi-même aussi. Alors, quels sont les moyens d'action que vous avez, finalement, au niveau de cette association?
Les moyens d'action, déjà, nous refusons de faire, j'allais dire, de faire la quête. Non, c'est pas de faire la quête, mais enfin, bon, de demander de l'argent aux gens, nous considérons ça... que ce serait faire l'aumône et que ça dévaloriserait les personnes handicapées. Nous préférons travailler avec le peu de cotisations que nous avons et les subventions. C'est un choix, mais on trouve que ce système-là est beaucoup plus valorisant pour les personnes handicapées. C'est toujours pareil. Ou on fait en sorte qu'ils soient intégrés et à vivre normalement comme tout le monde, ce qui est normal parce qu'ils sont comme tout le monde. Il y a des différences, ils ont des différences, mais ils sont comme tout le monde. Ou alors, on les fait passer pour demander l'aumône pour eux. Et ça, voilà. Alors, je préfère les intégrer plutôt que de les garder sur le coin, sur le coude, à dire...
Il faut dépasser. Il y en a toujours qui vont rester sur le côté, parce qu'il y a des handicaps très très lourds.
Oui, bien sûr. Donc, non, mais ça, c'est sûr.
Il y en a toujours qui ne pourront pas s'intégrer. Ça représente quoi? 60%, 70% des handicapés?
L'âge, oui, je ne peux pas trop vous dire. Oui, il y en a, si on compte les 4%... qui ont réellement la hache, parce que même là-dedans, il y en a certains qui peuvent travailler, qui peuvent avoir une activité. il y en a vraiment beaucoup moins qui ont un polyhandicap ou comme ça, parce que alors là, c'est quand les handicaps commencent à s'ajouter, ça c'est autre chose. Je veux dire, dès que des personnes comme ça, on peut les intégrer. On peut, bon, après, évidemment, ceux qui ne peuvent pas intégrer, à ce moment-là, oui, il faut trouver pour eux une autre politique d'aide de défense.
C'est pas facile, hein.
C'est un vaste domaine. Je crois qu'il va falloir des années pour pouvoir s'en sortir.
Alors moi j'avais vu un centre qui avait créé des restaurants et ça se passe donc au sud de Rochefort, de Rochefort-sur-Mer, à peu près 25 km de Rochefort-sur-Mer. Et ils ont créé un centre avec des restaurants. Je crois qu'il y a 4 restaurants qui sont donc dans ce centre. Et alors ils ont créé une tente bédouine avec une décoration extraordinaire orientale, enfin proche orientale. Et ils servent des couscous, il y a l'auberge, je crois qu'il y a l'auberge alsacienne et autres. Et ce sont des handicapés qui s'occupent des restaurants, sauf les cuisiniers principaux, qui eux sont des cuisiniers qui ont fait les grandes écoles et tout. Mais tout le reste, tous les aides-cuisiniers, tous les serveurs et autres, ce sont des handicapés. Et ce sont des restaurants qui marchent très 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 bien, parce que d'abord ils sont excellents.
Ben oui. Et oui, puisque là tout le monde met le meilleur de lui-même pour pouvoir faire venir les gens et pour.
Voilà, et ça marche très très bien. Et je trouvais que c'était des initiatives qui sont des initiatives finalement privées, qui ont essayé des associations, qui ont créé des centres. Ouais. Et j'ai trouvé que l'idée était vraiment géniale. Alors je crois qu'ils ont fait, je sais pas combien de centres comme ça en France, j'en connais au moins 2. Voilà.
Je crois qu'il y en a un du côté de, je sais plus si c'est Aix-les-Milles. Il y en a un il me semble qu'il y en a un aussi dans le Var, mais bon, après je connais mal.
Parce qu'il y a des expériences qui marchent.
Ça prouve que les personnes handicapées, si quand elles le veulent, peuvent faire quelque chose.
Vous avez proposé pour le mois de septembre, il me semble, vous avez une initiative originale, c'est de créer un salon. Alors parlez-moi de ce salon.
Alors le salon, ça va s'appeler Handicap Var, qui va se dérouler du 11 au 13 septembre 2008 au Palais des Congrès Neptune de Toulon. J'ai voulu créer ce salon justement pour avoir une réponse aux lacunes qui se trouvent dans le Var. Le Var est quand même assez oublié des gros professionnels. Ce qui est normal, c'est pas assez rentable. On ne peut pas leur demander de venir dans le Var nous faire des salons parce qu'ils n'y retrouveraient pas leurs bénéfices. Ils se font à Marseille, à Nancy, à Lyon, à Paris, tout ça. Je me suis dit qu'après tout, au niveau associatif, on pouvait essayer de faire quelque chose. Et j'ai eu des réponses. J'ai 39 exposants. C'est bien pour un premier, mais je suis très fier.
Si j'avais bien lu le papier que vous m'aviez passé, chaque exposant entreprise, il y a un exposant gratuit pour le handicap, c'est ça ?
Voilà, oui, j'ai trouvé cette formule pour essayer de faire venir les professionnels. Ouais. Bien entendu, parce que s'il n'y a pas de professionnels, il n'y a pas de financement du salon. Donc il faut bien que les professionnels viennent. Et on ne peut pas se contenter d'un forum des associations. J'ai trouvé cette formule originale qui a permis d'avoir quelques professionnels en disant que tout professionnel qui vient prendre un stand de 9 mètres carrés offre automatiquement un stand de 9 mètres carrés à l'association de son choix. C'est un système de parrainage. Et ça a marché, j'ai trouvé écho. Tout le monde a trouvé l'idée originale, ce qui me donne maintenant 39 exposants. On va s'arrêter là, parce que c'est pas la peine de faire quelque chose qui nous dépasse, qui nous dépasse et qu'on ne peut plus maîtriser. Mais je pense que ce sera un salon de qualité, parce que j'ai vu avec les associations présentes vont proposer des animations pour faire vivre le salon, le rendre dynamique, et nous allons avoir aussi également des conférences. Alors donc les conférences du salon, le jeudi 11 septembre à 10h, il y aura les recherches en ingénierie d'assistance au handicap par M. Philippe Gors, qui est directeur au laboratoire Handibio à l'Université de Toulon. 14h30, étudie à l'université avec un handicap par le professeur Patrick Abélard de l'Université de Toulon. Et à 16h, il y aura la protection de la personne handicapée dans le cadre juridique, financier et fiscal par M. Éric Boujon, ingénieur patrimonial AGF, Finance Conseil, et avec la participation d'un notaire qui, pour l'instant, n'est pas...
Qu'est-ce qu'il y a comme autre conférence ?
Alors, le vendredi 12 septembre, à 10h, il y a l'adaptation de l'habitat, conseil technique et recherche financière, par M. Armand Rouvier, responsable de la démarche accessibilité du Pactarium du Var. Ensuite, à 14h30, patrimoine et handicap, quelle solution ? Par M. Jacques Delestre, directeur de JD Consultant. À 18h, il y a changeons de regard sur le handicap. C'est Mme Christine Madavella, qui est conseillère municipale à Toulon et qui est chargée du projet municipal par M. le maire de Toulon. Ensuite, samedi 13, il y aura à 10h tourisme et handicap dans le Var, par Monsieur Pierre Baronnet-Frugès, qui est responsable des services communication et production du comité départemental de tourisme du Var. Ensuite, à 14h30, la formation des élèves handicapés, par Monsieur Dominique Quinchon, inspecteur de l'éducation nationale, conseiller technique pour l'adaptation scolaire et la scolarisation des élèves handicapés auprès d'inspecteurs d'Académie du Var. Et ensuite, à 16h, deux possibilités. Soit ce sera la clôture et la synthèse du salon qui se fera par les associations qui composent la commission exécutive, donc qui ont des rapports avec le conseil général, toutes les institutions, la DAS, tout ça. Soit, si la maison départementale des personnes handicapées est représentée, à ce moment-là, ce sera M. Henri Rouag qui donnera une conférence sur la maison départementale du handicap.
Et quels sont les types d'entreprises alors qui viennent à ce salon ?
Les types d'entreprises, c'est assez vaste parce qu'il y a des entreprises de conseil, donc conseil comme les AGF ou le JD Consultant. Il y a des entreprises de fabrication de matériel pour pouvoir... Il y en a un qui fabrique des pentes en fibre de verre pour pouvoir passer les seuils de porte, les trottoirs, une chose à dire, des pentes portables. Ensuite, il y aura Renault qui vient de présenter sa Kangoo avec la SOMAC, donc la société de Renault qui transforme les véhicules en TPRM. Les ascensoristes, la société ASA à Marseille, il va y avoir...
Est-ce qu'il y a des architectes ?
Ah non, c'est la corporation la plus difficile à toucher.
Parce que justement, c'est eux qui sont principalement concernés. Niveau de la construction, par exemple, des HLM et autres, on pourrait imaginer des rez-de-chaussée qui sont réservés à...
Non, parce que ça ferait une exclusion à des personnes handicapées. Le problème, c'est qu'à partir du moment où on réserve un rez-de-chaussée pour des personnes handicapées, ça voudrait dire qu'on les parque au rez-de-chaussée. À ce moment-là, c'est de...
Non, le problème actuellement, c'est qu'ils n'arrivent même plus à se loger, parce qu'ils ont justement, des appartements qui ne sont pas adaptés.
Et quand vous voyez que les programmes neufs n'obéissent pas aux lois, et la plupart du temps sont inadaptés et sont inaccessibles... Vous posez des questions. Quoi. Enfin, c'est pas encore rentré dans les mœurs de tous les architectes. Hein. Quand vous voyez des magasins qui ouvrent et qu'il y a encore une marche à l'entrée, c'est sélectif. Parce qu'en fin de compte, pour moi, il y a deux choses. Il y a la personne handicapée et il y a la situation du handicap. La personne handicapée, elle est handicapée, c'est pas sa faute, mais comme ça. Je ne conçois pas que devant cette personne-là, on y mette une situation de handicap. Parce que la marche, c'est une situation de handicap. Une pente qui fait 15-20%, c'est une situation de handicap aussi. Quand on fait dans un jardin d'enfants une zone où il y a des jeux et qu'on met du gravier, c'est-à-dire l'ancienne norme, maintenant on met des tapis de mousse, mais encore certains endroits on met des graviers. Quelqu'un qui a des cannes ou un fauteuil roulant, il ne peut pas aller voir son enfant s'il s'est cassé la figure dans ce jardin. Parce qu'il ne pourra pas passer. Le fauteuil ou les cannes vont s'enfoncer dans le gravier. C'est impossible de passer. Imaginez donc un enfant en fauteuil roulant qui regarde ses jeux d'enfants et qui ne peut pas y aller parce que c'est impraticable.
Oui, hein?
Ou alors, plus sauvagement encore, les parents qui sont sur fauteuil roulant ou avec des cannes et qui doivent aller secourir l'enfant qui est tombé dans ce jardin. Ils regardent leur enfant en pleurant de loin parce qu'ils ne peuvent rien faire. C'est pas humain.
Oui.
C'est une solution inhumaine.
Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à changer dans le Var ?
Beaucoup de choses à améliorer, oui. Oui, à changer, on ne peut pas tout changer. Mais quand on fait des programmes de rénovation, il faut en profiter. Il faut profiter pour mettre aux normes, tout simplement. Donc, mais ce n'est pas systématique.
Alors justement, on parlait de construction nouvelle. Là, le Var, que ce soit sur la Seine, Sifour, on l'a vu hier au niveau de... Cavalère et autres, il y a le Lavandou également, ce sont des municipalités qui construisent énormément avec des grands immeubles. Est-ce qu'il y a un effort au niveau des handicapés ? Est-ce qu'on le sait ?
Il y a un effort, c'est pas un effort, ils sont obligés de suivre une loi et ils la suivent bon gré mal gré. J'en veux pour preuve, vous vous promenez avec un maître et vous allez regarder si tous les passages font 1m40, si tous les aires de retournement font 1m50. Si tous les WC se retrouvent à entre 40 et 60 cm du sol, si sous tous les lavabos il y a un espace libre pour que le fauteuil roulant puisse se passer dessous avec les jambes pour que la personne puisse. Et puis, si les toilettes qui sont réservées aux personnes handicapées ne sont pas encombrées du seau, du balai, de la pelle, des ustensiles pour le ménage de l'établissement. Oui. Alors, il y a beaucoup de choses, il y a encore beaucoup à changer les mentalités.
Est-ce qu'on sait s'il y a des contrôles qui sont faits ?
Oui, il y a des contrôles. Le problème, c'est que les personnes qui contrôlent ne sont pas handicapées. Et j'aimerais qu'elles soient un peu plus sensibilisées à la condition des personnes handicapées. J'ai vu des trucs acceptés, neufs, qui n'avaient pas à être acceptés. Des établissements qui ont ouvert, qui n'avaient pas à être.
On vous sent profondément ému.
Révolté.
Révolté.
Révolté de certaines choses que je vois très souvent. Et oui, ému. Quand je vois que mon fils ne va pas assez de façon autonome partout, je suis ému, révolté. Quand je vois une personne en fauteuil roulant qui, sur une plage, est obligée de ramper jusqu'à l'eau pour pouvoir aller nager, oui. Je suis révolté. Et que tout le monde le regarde comme si c'était une bête étrange. Et je suis révolté. C'est cette révolte qui me permet d'avancer dans ce que j'entreprends, en fait.
Mais je sais que les mentalités sont difficiles à changer.
Il suffit d'aller à Barcelone, c'est pas très loin. Barcelone, c'est une ville de bord de l'eau, en Espagne. 70 plages accessibles aux personnes handicapées. Nous, quand on arrive à en faire une par commune, c'est déjà pas mal.
Oui, j'en vois pas une seule, moi, qui soit...
Si, j'arrive, oui. Si, il y a eu quelques plages qui ont été...
Parce que l'accès à l'eau est impossible.
Je vous parle d'une plage, je ne vous parle pas de l'ensemble des plages.
Au Morillon,
il y en a une.
C'est laquelle?
En face des pompiers. Il y a un tapis de mise à l'eau. Il y a l'essai, il y a douches qui sont faites exprès pour les personnes handicapées. Et d'ailleurs, que nous avons labellisé l'année dernière à la cérémonie Andy Sud.
Alors, qu'est-ce que c'est que cette labellisation?
La page nationale, la fédération, a organisé depuis 2005 les trophées de la page. Et ils ont demandé à toutes les associations de leur trouver, toutes les associations départementales, de leur trouver des candidats potentiels. Pour trouver des candidats, il fallait faire quelque chose dans la continuité. Donc j'ai créé pour la page du Var, Andy Sud, les Grands Prix Varois de la page, c'est-à-dire c'est la première cérémonie de labellisation des réalisations varoises en faveur des personnes handicapées. D'accord. Alors on labellise dans plusieurs domaines, pour l'intégration éducative et culturelle, pour l'intégration sportive et l'accessibilité aux loisirs, pour l'insertion professionnelle, pour l'accessibilité des services publics et pour l'accessibilité à la ville. Il n'est pas question pour nous de rentrer en compétition avec le label Tourisme et Handicap du Conseil général, enfin du Comité départemental du tourisme, c'est parce que c'est eux qui le délivrent. C'est autre chose. Nous, c'est fait pour sensibiliser, valoriser.
Qui a gagné l'année dernière?
Alors, l'année dernière, nous avons eu 24 labellisations. Alors, les labellisations, le label est valable pour 3 ans, qui est renouvelable. Donc, mais c'est la réalisation qui est labellisée, ce n'est pas l'association, l'entreprise.
Oui, d'accord.
D'accord.
C'est donc, labellisé une fois que c'est mis en place.
Une fois que c'est mis en place. Voilà. L'année dernière, on a labellisé quelque chose qui était en train de se mettre en place, mais dont on était certaine de l'issue. Le Grand Prix de l'année dernière, le Grand Prix de l'intégration éducative et culturelle a été attribué au groupement des intellectuels aveugles et amblyopes du Var. C'était pour la réalisation d'ouvrages scolaires et des romans en braille, afin que les déficients visuels aient la possibilité de lire et poursuivre des études en milieu ordinaire. C'est beau.
C'est pas encore fait, ça?
Ben non. Et quand vous voyez que, ce qu'il nous expliquait, c'est qu'un livre que nous achetons, nous, à la FNAC, à 9 euros, le revient à eux entre 70 et 80 euros. Cher le braille. Ensuite, ben, le Grand Prix de l'intégration sportive et l'accessibilité aux loisirs a été attribué à Lou Bastidou, c'est le Bastidon de Lucie qui est à Cuers, parce qu'ils ont fait un village de vacances ouvert à tous et particulièrement adapté aux besoins des personnes handicapées. Ils travaillent, en fin de compte, selon la philosophie de la page, c'est-à-dire la mixité, où handicapés et personnes valides puissent vivre ensemble. Notre but, c'est de vivre ensemble.
D'accord.
Et eux, ils ont travaillé là-dedans. Alors, le label, le Grand Prix de l'accessibilité au service public a été attribué à la ville de La Londe-et-les-Morts parce qu'ils ont eu de nombreuses initiatives avec une approche d'ensemble du handicap dans la ville. Donc ils ont fait pas mal d'endroits, mais ça a été un truc global. Le cheminement à pas mal d'endroits, ça a été le cheminement continu. C'est-à-dire qu'une personne handicapée parte de la maison, et ça aussi c'est notre philosophie, part de la maison, sort de chez elle, puisse aller prendre soit les transports en commun, soit pouvoir y aller comme elle en a envie, sur son lieu de travail, sur ses lieux de loisirs et tout le reste, sans rencontrer de situation de handicap, c'est-à-dire d'obstacles, comme je le disais tout à l'heure. Le Grand Prix dans la catégorie de l'insertion professionnelle a été attribué au centre médical Pierre Chevalier hier, parce qu'ils ont mis en œuvre, et précocement dans un établissement de santé, et pendant la phase de soins, une démarche utile au maintien dans l'emploi des personnes, de toute personne nouvellement handicapée. C'est-à-dire qu'ils leur, ils les soignent, ils leur font faire des tests, ils leur font faire un tas de trucs pour voir s'ils sont capables de reprendre leur travail, ou s'il y a la possibilité de leur faire un travail adapté. Et pendant que la personne est en soins, ils font en sorte que le poste de travail soit adapté, que la personne puisse être réintégrée dans son milieu sans aucun problème. Ensuite, le Grand Prix de l'accessibilité à la ville a été attribué à la ville de Sainte-Maxime, parce que là, c'est pareil, ils ont fait une démarche d'ensemble. Mais eux, en plus, ont associé à cette démarche toutes les associations de personnes handicapées. Ils ont travaillé ensemble et ils ont fait quelque chose de fantastique.
Donc, cette nouvelle campagne de labellisation, ça se passe quand au niveau
Alors,
du
ça
salon
se passe, ça se passe.
Enfin, il va y avoir de nouveaux prix décernés.
Ah, il va y avoir de nouveaux prix décernés, de nouveaux labels. Alors, c'est-à-dire que ceux qui ont concouru l'année dernière peuvent concourir de nouveau cette année, oui. Mais pour une réalisation totalement différente. C'est ce qui est normal. Le concours est ouvert à toutes les entreprises, établissements publics ou privés, les collectivités locales, les commerçants, les artisans, les associations, tous ceux qui sont susceptibles d'accueillir des personnes handicapées.
Alors, rappelez-moi la date.
Le salon du 11 au 13 septembre 2008 au Palais des Congrès Neptune à Toulon. Et la cérémonie de labellisation, c'est le vendredi 12 septembre à 20h30, toujours au Palais des Congrès Neptune à Toulon.
Qui est le jury dans ces cas-là ?
Alors là, le jury, l'année dernière, je vais vous dire, il y avait une représentante du comité départemental handisport, une représentante du comité départemental de sport adapté, le responsable de la commission accessibilité de l'Association des paralysés de France, et puis des personnes de la page, quatre personnes de la page. Cette année, je pense qu'à peu près les mêmes personnes seront là, et la Fédération des œuvres laïques vient de me demander aujourd'hui s'il pouvait y avoir une place pour eux dans le jury. Chose à laquelle j'ai dit oui, nous avons le même but, la défense de la laïcité.
Très bien. Bah, écoutez, merci Jean-Marc.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, je vous souhaite très bonne chance pour ce salon.
Merci beaucoup.
Beaucoup de monde qui puisse s'intéresser.
Donnez-vous le mot, faites venir.
Et être touché par cette démarche, oui. Et puis, écoutez, on va se dire à bientôt.
À bientôt au salon.
Bien, merci beaucoup Jean-Marc.
Merci
à bientôt. Donc, ici, autre radio, autre culture. À bientôt. Autre radio, autre culture.